Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec sa salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors : « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient : « C'est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C'est bien moi. » Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit : « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit : « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. » Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » On l'amène au pharisien, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit : « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent : « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. » Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle, et à présent, je vois. » Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l'injurier : « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu.
Saint Joseph est très aimé. Nous sommes très fiers de l'avoir comme saint patron pour notre paroisse. C'est aussi d'ailleurs le saint patron de l'Église catholique entière. Et donc nous parlerons de tout cela dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, vous voyez, on a lu cet évangile de l'aveugle de naissance qui est guéri par Jésus parce que il nous rejoint dans notre parcours de foi, cet aveugle de naissance. Le parcours de foi que l'on fait jusqu'au baptême. Et comme tout à l'heure, nous aurons trois personnes pour qui nous célébrerons donc le deuxième scrutin dans ce dimanche de carême, eh bien, nous allons commenter aussi un petit peu cet évangile. Vous voyez, cet aveugle de naissance, bon, il a été guéri par Jésus, mais il ne voit toujours pas Dieu. Il voit les choses, les gens. Il voit la lumière naturelle. Et quand on lui demande comment cela s'est fait, tout ce qu'il peut dire, c'est « L'homme qu'on appelle Jésus m'a guéri, un homme qu'on appelle Jésus. » Il en est là. Et puis voilà que dans l'adversité, puisqu'en fait il est mis en cause lui-même, on le soupçonne de supercherie, qu'en fait il n'était pas aveugle, qu'il joue la comédie, et puis aussi il risque de se faire exclure de la synagogue, puisque, comme dit saint Jean, il était déjà admis que toute personne qui reconnaîtrait en Jésus le Messie serait exclue. Donc c'est difficile pour lui. Et dans ces difficultés, sa foi s'approfondit. C'est intéressant pour nous, un chrétien, qui avons la foi. La foi ne s'approfondit pas seulement quand tout va bien, quand Dieu exauce mes prières, que tout se passe bien pour moi, je suis en bonne santé, etc. Alors, je crois en Dieu, c'est magnifique. Pas forcément. La foi, la découverte de Dieu, l'approfondissement de la foi se fait aussi dans les difficultés. Peut-être même principalement dans les difficultés. La deuxième fois qu'on dit à cet homme-là « Qui est-ce qui t'a guéri ?» Il dit « C'est un prophète. Jésus est un prophète. » Autrement dit, quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Parce que, évidemment, pour faire un tel miracle, il faut bien que quelque chose de Dieu soit passé. Et donc, il a déjà fait un pas en avant. Et la troisième fois, finalement, que on lui demande de dire vraiment ce qu'il s'est passé, il dit que s'il ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Parce que c'est vrai que même les prophètes n'ont jamais guéri un aveugle de naissance. C'est un miracle qui dépasse tout ce qui s'est vu jusqu'alors. C'est de Dieu. Il vient de Dieu, cet homme-là. Et il en est là lorsque finalement, cette fois, Jésus décide d'aller le rencontrer. Et il le rencontre, cet homme, et il lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Et cet homme veut croire, désire croire, comme nous tous. On aimerait tellement que les cieux s'ouvrent et qu'on l'on voit, le Seigneur, dans notre vie, qu'il se manifeste. Alors il lui dit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» il désire croire. Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Et alors, cet homme se prosterne devant lui et l'appelle Seigneur, je crois Seigneur. Et désormais, il voit Dieu. En Jésus-Christ, il voit Dieu. À travers ces difficultés qu'il a vécues, sa foi s'est approfondie jusqu'à ce contact avec Dieu. Et peut-être que si on regardait un petit peu dans notre vie, on verrait que, sans doute, c'est dans les difficultés que nous avons vécues qu'on a rencontré Dieu, que petit à petit, on a pu le discerner dans notre vie, son action, sa parole, qu'il est venu à notre secours, qu'on a fait appel à lui, et que petit à petit, on a désiré, nous aussi, croire en lui, parce qu'on se fiait de moins en moins en nous-mêmes. Alors, cet homme, il est pour nous exemplaire, et on priera donc tout à l'heure pour les trois catéchumènes, pour que le Seigneur continue à les illuminer, comme il a illuminé cet homme-là, qu'il nous illumine tous par la foi, qu'il continue à illuminer ces catéchumènes dans leur marche vers le baptême. Et puis Joseph, il a fait un pèlerinage de foi, lui aussi, évidemment, dans sa vie. Il a progressé dans la foi. Comme tout homme, il est né, lui aussi, aveugle de naissance par rapport à Dieu. Personne ne voit Dieu comme cela en entrant dans le monde. Mais il a accueilli Jésus chez lui. Et petit à petit, sa foi a augmenté. À quoi le sait-on? Eh bien, quand l'ange lui apparaît en songe, une nuit, et qu'il lui dit, cet ange, d'accueillir chez lui Marie, son épouse, parce que ce qui était engendré en elle vient de l'Esprit Saint, il lui obéit à cet ange. Il a foi en Dieu. C'est l'obéissance de la foi. Saint Joseph nous apprend à obéir à Dieu parce qu'on croit en lui. Et donc on met en œuvre sa parole. Et c'est comme cela qu'il va devenir, en étant époux de la Vierge Marie, le père de Jésus, et que Jésus va devenir de la descendance de David, ce qui est l'accomplissement des prophètes et des prophéties. Et donc particulièrement important, évidemment, pour le mystère de l'incarnation. Et c'est comme cela que Saint Joseph va lui être remis à ce mystère de l'incarnation qu'il va vivre, tout simplement, avec Marie, avec Bethléem, où il va naître, l'enfant Jésus, où il va grandir, l'incarnation, Dieu fait homme, d'abord bébé, puis enfant, adolescent, jeune homme, et puis Joseph meurt. Joseph meurt avant que Jésus soit devenu, par sa passion et sa résurrection, le rédempteur de l'homme. Mais le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption sont liés, évidemment. C'est par son incarnation que l'homme est sauvé aussi. L'homme est sauvé déjà parce que Dieu se fait homme, et Saint Joseph, qui côtoie l'enfant Jésus, qui grandit, qui vit sa vie humaine, mais comme Dieu, en même temps, il le voit, le salut de l'homme. Il le croit, donc, lui aussi. Il l'a sous les yeux. Il peut le contempler. Et c'est pour cela que, à la messe, eh bien, à côté de, ou plutôt après à la mention de la Vierge Marie, nous mentionnons Saint Joseph à la messe, qui est le mémorial de la rédemption, qui est célébré tous les dimanches. Nous célébrons Saint Joseph avant les papes, avant les apôtres, avant les martyrs, juste après la Vierge Marie, parce que justement, c'est à lui que Jésus s'est confié, que ce mystère de l'incarnation a été confié, et qui a pu donc ouvrir à lui aussi son regard pour être éclairé par ce mystère de l'homme sauvé, de l'homme nouveau. Alors, Saint Joseph, évidemment, a une place toute particulière dans l'Église, puisque le Christ lui est confié, Marie lui est confiée, et donc la Sainte Famille. Et c'est ainsi que le pape Pie IX va déclarer Saint Joseph le saint patron de l'Église catholique. Vous voyez, un peu avant le XXe siècle, il fait cela parce qu'il pressent évidemment des difficultés pour l'Église catholique, difficultés dans lesquelles nous sommes maintenant, évidemment au XXIe siècle. Mais nous avons ce saint protecteur à qui nous nous confions. De fait, le Seigneur lui-même s'est confié à lui. Et c'est pour cela qu'il fait tellement de choses pour nous, Saint Joseph. Si vous êtes si nombreux à être venus, c'est parce qu'évidemment, il fait tellement de choses pour nous. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même l'a mis en deuxième position, on pourrait dire, après la Vierge Marie, dans ce mystère de l'incarnation de son Fils. Et puis, évidemment, dans cette figure de Saint Joseph, cette fois comme époux de Marie, il y a un exemple pour toutes les familles, toute famille que nous sommes. Et c'est aussi un sujet important pour nous aujourd'hui, en ce 21e siècle. Parce que Saint Joseph est vraiment époux de la Vierge Marie, par la fidélité qu'il a eue envers la Vierge Marie, par cette union indissoluble jusqu'à son décès, jusqu'à sa mort, par la charité qui a imprégné son cœur de l'amour divin, faisant de cette union avec la Vierge Marie un sacrement, c'est-à-dire une image de l'amour de Dieu pour nous et de nous pour Dieu, par l'Esprit Saint qui nous habite, eh bien, la Sainte Famille nous donnait un exemple à toutes les familles. Et avec toutes les difficultés, là aussi, que cette fois, c'est la famille qui vit dans notre monde, nous avons un saint patron à qui aussi nous confier dans nos relations conjugales, parentales, de père. Saint Joseph nous aiguille. Saint Joseph veut nous aider avec cette vertu qu'il a manifestée de chasteté, c'est-à-dire donc de respect de l'autre, un profond respect de l'autre, du mystère de l'autre, du mystère de son épouse, et aussi du mystère de son fils, le Verbe incarné, et dont on a tellement besoin aujourd'hui. Alors voilà, là aussi, il faut le recevoir, Saint Joseph, comme un saint patron à qui on peut avoir de la piété, de la dévotion, tout simplement parce qu'il va nous amener à être plus père, plus époux. Et si on est une mère ou une épouse, on a toujours intérêt à ce que son conjoint soit plus époux et plus père, et ainsi à confier donc sa famille à la Sainte Famille, et en particulier à Saint Joseph. Alors c'est comme cela que c'est le pape Jean-Paul II qui nous disait que Saint Joseph devienne pour tous un maître singulier dans le service de la mission salvifique du Christ, qui nous incombe à tous et à chacun dans l'Église, aux époux, aux parents, à ceux qui vivent du travail, de leurs mains ou de tout autre travail, aux personnes appelées à vie, à la vie contemplative, comme à celles qui sont appelées à l'apostolat. Tous, donc, que Saint Joseph devienne pour nous un maître dans le service de la mission salvifique de Dieu, comme lui-même l'a été, en se mettant au service de ce mystère de l'incarnation et de la Sainte Famille. Régner, c'est servir. C'est ce que nous apprend Saint Joseph, même dans ses épousailles. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, et il le fait, et il va servir ainsi le dessein de Dieu. Alors qu'il pourrait se dire, mais dans mon mariage, c'est moi d'abord que je veux être heureux, c'est moi d'abord que je veux promouvoir, ben non, il est remis au service des autres, et c'est comme cela qu'il va lui-même prendre sa place, toute sa place, dans la Sainte Famille et dans l'Église. Et c'est ainsi pour nous aussi un exemple. En servant la parole de Dieu pour nous, notre vocation à chacun de nous, que nous prenons réellement notre place de service, de serviteur, et que nous prenons réellement notre dimension. Alors demandons cette grâce au Seigneur, invoquons un Saint Joseph pour tous nos besoins, nous confions toute la paroisse, ses services, toutes les personnes de la paroisse, pour que Saint Joseph, par l'intercession de Saint Joseph, le Seigneur nous bénisse.